1853 n'a pas été trop rapide. Mais, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, la structure est exactement la même. Donc, on regarde le règne. Mais cette fois-ci, donc dans cette deuxième version, donc on s'intéresse plus précisément au reste. Et donc, le passage important, c'est celui que j'ai réécrit au tableau de droite. Donc, je vais essayer de retrouver le passage avec les mots de Cauchy. Donc, concevons maintenant, donc le passage important, c'est là où il écrit, donc juste en dessous de la, donc, de l'équation 3. Concevons maintenant qu'en attribuant à n une valeur suffisamment grande, on puisse rendre, pour toutes les valeurs de n comprises entre les limites données, le module d'expression 3, quel que soit n', et par suite le module de Rn, inférieur à un nombre epsilon aussi petit qu'on voudra. Donc ici, donc on voit donc apparaître de manière explicite donc une alternance de quantificateurs. Donc c'est ça, c'est ça que je voulais aboutir, c'est comment donc en cherchant à préciser donc cette démonstration que donc qu'une série de fonctions continues est continue, donc il faut donc préciser donc dans la convergence même donc dans quel ordre donc on considère des quantités infiniment grandes et des quantités infiniment petites. Donc ici donc quand on cherche donc à formuler ça dans un langage plus moderne, donc on se rend compte que donc la première chose qu'on impose, c'est le epsilon. C'est-à-dire que vraiment ici, donc on a donc l'expression donc que pour tout epsilon positif, eh bien donc il existe un n suffisamment grand, tel que donc pour tout n prime plus grand que n, on a donc Sn prime moins Sn qui est plus petit que epsilon. Alors, il y a un absent ici. Il y a un absent dont Cauchy ne parle pas du tout. C'est la variable. Effectivement, j'ai entendu derrière, c'est les x. Alors, pourquoi... Non, comment est-ce que Cauchy peut, même dans cette version-ci, donc... oublier la variable? Eh bien, c'est parce que pour lui, donc, dire que Sn moins Sn est petit, donc, c'est clairement donc les fonctions qui sont considérées comme étant petites et non pas des valeurs des fonctions. Donc, ici, donc, il y a une distinction donc, dans laquelle donc, Cauchy. J'en parlais tout à l'heure à la pause avec en laquelle donc Cauchy reste foncièrement différent donc des mathématiciens d'aujourd'hui. C'est que donc pour lui une fonction n'est pas une application, c'est-à-dire que pour lui une fonction c'est pas quelque chose qui a un x associe un S de X, pour utiliser la lettre S que Cauchy utilise. Non, pour lui, une fonction, c'est quelque chose... Pour lui, une fonction, c'est juste une variable, donc une variable exprimée en fonction d'autres variables. C'est-à-dire qu'une fonction, si vous voulez, une fonction, pour lui, c'est quelque chose de... C'est un être premier, c'est un être primitif de l'analyse, exactement comme la droite ou le point sont des données primitives non définies de la géométrie. Et donc, quand il exprime ceci, eh bien, il ne se sent pas obligé d'écrire ceci. Il n'est pas capable, en fait, il n'est pas capable d'écrire ceci. j'ai hâte d'écrire, de donner en toutes lettres, en langue naturelle, donc la contrepartie de ceci, parce que ici donc on parlerait non plus des fonctions, on parlerait de nombre. Et pour lui, il n'y a pas de rapport évident entre nombre et fonction. Voilà. Alors, quelle est donc la deuxième chose que je peux observer? C'est donc qu'une chose dans la formulation donc de 1821, donc page 132, qui est vraiment qui est très certainement une faute, et aurait été une faute si Cauchy avait eu un interlocuteur en 1821, s'il a eu quelqu'un à qui parler, et si voilà, où il y a vraiment donc un problème. C'est que donc page 132, donc on lit, il est question d'une valeur particulière pour laquelle la série est convergente. D'accord, donc vous avez donc là, donc vous souvenez, donc on a donc sinus de n fois 0, pardon, sinus de k fois 0 divisé par k, pour k non 0 à l'infini, évidemment, donc ceci ça vaut 0, on est d'accord. Et donc, on a donc ici, donc une valeur 0 est une valeur particulière pour laquelle cette série, pour laquelle la série est convergente. D'accord, je remets ici. Voilà, donc si on a donc une valeur particulière 0 pour laquelle donc cette série est convergente. Et donc une telle, donc ce fait-là ne se retrouve pas dans le, donc ne se retrouve pas dans la formulation de 853. Et donc ce que je veux dire c'est que vraiment ce qu'on observe ici dans la formulation de 853, c'est qu'effectivement donc on demande d'avance que la série converge non pas simplement en une valeur particulière, mais vraiment donc au moins donc sur un petit intervalle autour de la fonction, autour donc de la valeur, donc comment est-ce que je vais m'en sortir avec ça, donc on demandera donc que la convergence ait lieu sur un petit intervalle sur lequel donc on voudrait démontrer que la série de la que la série est convergente et converge vers une fonction continue. Donc c'est ça donc la deuxième chose qui est vraiment important donc de voir donc dans cette reformulation du premier théorème qu'on voit donc à cheval sur les pages 456 et 457 de la note de 1853. Voilà, donc ça conclut peut-être de manière un peu abrupte, très abrupte parce que je veux maintenant encore parler de Dedekind. Donc une petite entrée en matière donc dans l'histoire de l'analyse au 19e siècle, et donc la nécessité de bien préciser donc dans quel ordre on prend les quantificateurs. Donc qu'est-ce qu'on considère d'abord, qu'est-ce qu'on considère après. Et puis après, donc, cette nécessité aussi qui s'est vraiment fait jour à ce moment-là, donc de préciser ce que c'est qu'une fonction. Et donc, on verra donc après, donc, dans les décennies successives, donc une nouvelle manière donc, de concevoir la fonction. Voilà. Pour trouver un genre d'équilibre entre analyse et algèbre, donc je vais maintenant donc passer à un autre chapitre qui est donc l'histoire donc des concepts abstraits en algèbre. Alors, je vais. Je ne sais pas très bien comment. Comment introduire cela, et finalement, je ne suis pas très certain de mon coup, mais je vais quand même commencer par quelque chose que. Par un épisode qui est crucial pour. Pour le texte que je veux considérer. Voilà, donc je vais ici donc commencer par. Regardez donc un chapitre d'un texte qui s'appelle donc Continuité et nombre irrationnel. Donc 2572. Et c'est seulement après donc, que je vais regarder un autre texte, que je ne vous ai pas encore distribué, qui s'appelle Sur la théorie des nombres anti-algébriques. Alors donc le texte donc ce chapitre qui est donc le paragraphe 3 continuité de la droite, je vous l'ai déjà distribué, il est je crois que vous l'avez déjà distribué, il doit être au verso d'une des feuilles que je vous ai donné. Donc il s'agit d'un texte extrêmement important, j'en ai déjà ceux qui suivent mon cours peut-être mon cours d'épistémologie mathématique m'ont déjà on a déjà vu ce texte. Donc comme ce n'est pas ce qui est comme je vais passer plus de temps sur l'autre texte, je vais comme juste donc vous dire de lire ce paragraphe 3 qui est vraiment très essentiel pour les mathématiques jusqu'à aujourd'hui, mais je vais juste donc vous expliquer l'idée. Donc il s'agit donc ici pour Dedekind de rendre compte de la continuité de la droite, donc du fait que la droite, que l'objet géométrique droite est continu, mais en termes arithmétiques, c'est-à-dire en se basant donc comme sur le concept premier de nombre entier. Donc c'est une. Et donc comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut rendre compte de quelque chose qui est vraiment donc qui a l'air d'être une intuition première, la continuité, en termes de nombre entier? Eh bien donc on peut y arriver à l'aide des nombres rationnels. Donc les nombres rationnels, comme vous le savez, donc ce sont donc des nombres rationnels sont définis comme des rapports de nombres entiers. Donc les nombres rationnels, on est d'accord, sont basés sur les nombres entiers. Et donc quel peut être donc le rapport entre nombres rationnels et droite? Alors si sur une droite donc on fixe deux points. Et que le premier point on l'appelle 0 et que le deuxième point on l'appelle 1, et bien donc on peut à partir de ces deux points donc construire beaucoup de points sur cette droite donc qui correspondent donc au nombre rationnel. Voilà, donc comment est-ce que je vais dire ça? Donc en fixant un repère donc sur une droite, bien donc on peut donc déterminer sur une droite voilà donc des points à coordonnées rationnelles. Alors, ces points à coordonnées rationnelles, ils sont tous ordonnés. C'est-à-dire qu'il y a un ordre total sur, donc, sur les points à coordonnées rationnelles. Et donc, en particulier, tout nombre rationnel définit ce qu'on appelle une coupure de la droite. Donc, ça, donc tout nombre rationnel donc, définit donc, deux classes. Donc, définit une coupure. Donc, qui est. Donc, et donc une partition des nombres rationnels en deux classes. Donc mon nombre rationnel, je vais l'appeler R en deux classes. Donc la classe G comme gauche, qui est l'ensemble donc des point voilà, point rationnel donc à gauche de R sur la droite et puis donc une classe droite qui sont donc les points rationnels à droite. D'accord, donc j'ai donc un point donc repéré par un nombre rationnel R et puis donc j'ai comme ça ici donc une classe, une partition des nombres rationnels donc en deux classes qui sont donc la classe de gauche et la classe de droite. Et puis après donc nous savons tous que eh bien il existe des partitions de la droite qui ne sont pas donc qui ne sont pas issues d'un nombre rationnel donc réciproquement voilà donc si on a une partition des nombres rationnels donc en deux classes G et D donc tel que donc pour tout petit g de grand G et tout petit d de grand D on est que petit g est à gauche de petit d. Eh bien donc, on n'a pas nécessairement que donc que ces partitions est issu donc d'un nombre rationnel R. C'est-à-dire, donc je vais vous donner un exemple. Un exemple que vous connaissez tous. Donc je vais juste définir gauche comme étant donc l'ensemble donc des P sur Q donc où P appartient à Z, Q appartient à Z étoile puis après donc, Il y a toujours ces problèmes très embêtants de... Voilà, donc je vais... Je suis très loin, qui appartient à M, qui appartient à l'étoile. Et donc, P2 est plus grand que 2 plus 2. Comment ?
Plutôt à droite.
Plutôt à droite, voilà. Donc, mes problèmes de signes qui me font plutôt...
Voilà, là, ça va, parce que t'es à droite.
Voilà, exactement. Et puis, donc, G, c'est simplement donc, Q moins D. D'accord ? Donc là, j'ai une... Là, je observe très facilement qu'effectivement, comme ça, je définis une partition de Q en une classe de droite et une classe gauche, et je peux donc utiliser une des nombreuses démonstrations de l'irrationalité de racine de 2 pour me rendre compte que cette coupure-ci, cette coupure, eh bien, n'est pas issue d'un nombre rationnel. Donc la démonstration est certainement une démonstration par l'absurde. Je suppose que ma coupure est définie par un nombre rationnel et j'aboutis à une contradiction. Et alors, jusqu'ici, on se dit, pourquoi diable faire tout cela ? Eh bien, c'est là que Dedekind fait un geste inaugural, complètement nouveau, quelque chose qui n'a pas été fait auparavant, avec toutes les réserves. Certainement, ça a été fait auparavant, il faut certainement regarder ça avec plus de pincettes, mais en tout cas, donc, on peut voir là donc, un geste vraiment révolutionnaire. C'est de dire que voilà, c'est de dire que eh bien effectivement donc on a une réciproque qui est imparfaite. Eh bien comment est-ce qu'on va rendre la réciproque parfaite? Eh bien on va créer des nombres. On va dire eh bien je vais appeler un nombre une coupure de nombre rationnel. Donc je vais dire, voilà, effectivement, ce qui auparavant était une démonstration d'impossibilité, eh bien, c'est en fait quelque chose qui doit me donner des ailes. Eh bien, donc je vais définir que donc un nombre réel est, mais être au sens vraiment de création, d'accession à l'existence, donc d'une coupure, c'est-à-dire une partition. Et puis après, donc, première chose, et puis deuxième chose, je vais étendre toutes les opérations algébriques que je connais sur le nombre rationnel aux coupures. Je montre. Le jeu, j'ai remplacé le jeu par Dedekind, je pense que c'est plus juste. Dedekind va définir. Voilà, donc, il va étendre donc, toutes les opérations algébriques. De Q aux coupures.
Ma question, c'est au niveau de cette construction, parce que nous, quand on voit R, on voit en gros deux propriétés, par construction de R, il y a celle avec R est complet, donc ça c'est issu de Cauchy, donc c'est pas celle-là. Et l'autre qu'on utilise souvent comme propriété fondamentale, c'est toute partie non vide et majorelle, mais une norme sphère.
Mm-hmm.
Est-ce que ça vient de celle-là?
Alors, là vous posez une bonne question. La première chose que je peux aussitôt dire, c'est que ce que vous dites est juste. Et c'est juste exactement dans la mesure suivante, c'est qu'en fait, le point de départ des équipes, vraiment la question par laquelle il a commencé, c'est le théorème dont vous parlez. il a donc ce théorème, donc toute partie bornée de R admet admet un sup. Et donc il voulait exactement comme les Grecs, il voulait savoir sur quoi ce théorème est basé. Il voulait que ce résultat, qui était simplement exactement comme le théorème des valeurs intermédiaires, il y a un rapport intime en fait entre ce théorème intermédiaire et ce théorème de la borne supérieure. Donc il voulait voir qu'est-ce qui était caché derrière ce fait. Comment est-ce qu'on peut rattacher ce fait-là? Je veux dire, comment est-ce qu'on peut donc révéler la nature profonde de ce fait-là en le rattachant à quelque chose qui n'est plus géométrique mais arithmétique. Donc il cherchait vraiment le contenu arithmétique qui se cachait derrière ce théorème. Et c'était, une fois de plus, là c'était spécifiquement, comme le dit Dedekind dans son introduction au texte dont j'ai extrait ce chapitre, pour des raisons d'enseignement. Il enseignait l'analyse et il s'est rendu compte que ce théorème-là était un théorème très important et il a cherché donc un fait le plus simple possible qui permet de le baser sur l'arithmétique. Donc la seule chose qui existe vraiment en mathématiques, ce sont les nombres de l'infini. Vous voyez la question, la première chose que vous avez évoquée, c'est la complétude. Et effectivement, donc, quand on regarde la définition de la complétude d'aujourd'hui, on voit bien qu'elle est issue qu'elle est vraiment dans un rapport de, comment est-ce qu'on peut dire ça, de cousinage avec les suites de Cauchy. Et donc avec une autre définition des nombres réels qui est donc la complétion des nombres rationnels. La complétion rationnelle, c'est-à-dire on considère l'ensemble des suites de Cauchy de nombres rationnels, on définit sur cet ensemble de suites de Cauchy de nombres rationnels une relation d'équivalence, qui est simplement là que la suite différente des deux suites de Cauchy est une suite nulle, donc une suite qui tend vers zéro, et donc on fait pareil, on étend toutes les opérations algébriques de cette donc de ce quotient de suite de Cauchy, des nombres rationnels au quotient de suite de Cauchy des nombres rationnels. Et puis après, donc, se pose la question, est-ce que c'est la même chose? Alors là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, avant de dire la chose extraordinaire, je vais dire qu'on peut aussi définir R d'une troisième manière. Alors c'est très peu fait, pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas ça se retrouve en particulier donc dans un cours de Weierstrass, c'est de définir R de la manière intuitive dont on y accède quand on a appris les nombres décimaux à l'école primaire ou au collège. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent encore de l'ensemble B avec les doubles barres. En tout cas moi quand j'étais enfant j'ai appris ce que c'était qu'un ensemble B, c'est l'ensemble des nombres qui ont une écriture décimale finie. Et donc, un nombre qui admet une écriture décimale finie, eh bien, on peut l'écrire comme une série finie en puissance de 10, logiquement. Et donc, on peut, à partir de là, donc on peut, dans ce cas-là, de série finie de puissance de 10, écrire un critère de convergence sous une forme beaucoup plus simple, ou légère, un peu plus simple que les suites de Cauchy. Et donc, construire d'une manière très explicite les nombres réels comme étant les nombres qui ont une écriture décimale infinie. Donc il y a comme ça trois définitions différentes des nombres réels. Et donc la question est de savoir est-ce qu'elles sont équivalentes ou non. Est-ce que c'est la même chose ou non. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est que la réponse est oui mais. Donc la réponse est oui mais, au sens où on ne peut démontrer l'équivalence des trois notions qu'en faisant une démonstration par l'absurde. Donc on suppose qu'on n'aboutit pas à la même chose et on trouve une contradiction. Donc on n'a pas de démonstration directe. Il n'y a pas de démonstration simple, disons, de nature algébrique, pour dire que quand on fait des suites de Cauchy, c'est vraiment directement la même chose que quand on fait des coupures, c'est vraiment directement la même chose quand on fait des, les écritures décimales infinies. Donc la réponse est oui, mais. Et ce oui, mais, en quoi est-ce qu'il est important? En quoi est-ce qu'il est important encore aujourd'hui? C'est quand on transpose les choses à l'ordinateur. Donc quand on cherche à faire des démonstrations d'analyse à l'aide de l'ordinateur, eh bien donc se pose la question de quelle formalisation des nombres réels est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on utilise les coupures? Est-ce qu'on utilise les suites de Cauchy? Est-ce qu'on utilise l'écriture de Weierstrass? Peut-être éventuellement en utilisant des puissances de 2 plutôt que des puissances de 10. Les ordinateurs préfèrent les puissances de 2 aux puissances de 10. Et donc, tout cela, parce que, comme vous le savez peut-être, l'ordinateur n'a pas accès aux tiers exclus. Les tiers exclus, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement de l'ordinateur. Donc, voilà, donc la réponse, c'est oui, mais. Oui. Oui, mais ce sont des isomorphismes, vous voyez, qui sont de nature analytique, qui passent un peu par l'infini. Ce ne sont pas des isomorphismes tout bêtes, ce ne sont pas des identifications vraiment de calcul direct. C'est ça que ça veut dire quand on utilise le terme exclu. C'est qu'on raisonne sur une affiche d'objets simultanément. C'est quelque chose que 99% des mathématiciens s'autorisent, mais maintenant que l'ordinateur est de plus en plus important, qu'on essaie de faire des certifications de preuves à l'ordinateur, on est un peu plus. On se rend compte que ce n'est pas autant la même chose qu'on pourrait le croire. Mais je vais couper. J'ai trop hâte pour faire partir ma science. Voilà, j'espère que vous allez lire ce texte chez vous. Vous allez voir qu'à la fin, des équipes deviennent même lyriques quant à ce geste de création. Et donc, en 1876, Dedekind va à nouveau faire la même chose. Alors, c'est dans un contexte qui est, disons, pour les mathématiques du 19e siècle, beaucoup plus important. C'est toujours parce que les fondements des mathématiques, la définition des nombres réels, ça n'avait pas l'air si important que ça. C'était important pour Dedekind, parce que Dedekind était un esprit vraiment profond, qui voulait vraiment comprendre ce à quoi il avait affaire, qui voulait un petit peu, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un besoin, qu'on appelle en philosophie un besoin ontologique, de quoi sont vraiment faits les nombres réels. Il voulait ramener les nombres réels au nombre entier. Mais quand on regarde, donc il y a... vous pouvez trouver à la bibliothèque, la Bioscience, absolument pas la bibliothèque de maths, puisque c'est moi qui fais le temps de la bibliothèque de maths, mais à la Bioscience, vous pouvez trouver donc ce livre, cette édition du texte de Dedekind, avec aussi la correspondance entre Lipschitz et Dedekind, que j'ai déjà fait étudier à mes étudiants, où donc on se rend compte que de grands mathématiciens, comme Lipschitz, au 19e siècle, ne comprenaient pas donc les raisons de Dedekind, ne comprenaient pas pourquoi il fallait faire cela, et en fait prétendaient que Dedekind n'avait aucune originalité dans sa démarche. Voilà, donc maintenant, le texte que nous allons maintenant lire, que je vais vous distribuer, donc là, il faut... J'aime bien distribuer les textes en pied, donc là il faut à chaque fois prendre 3 pages. Ce texte est plus important pour les mathématiques du 19e siècle, pour les contemporains, parce que là il s'agissait d'un sujet de recherche très important pour les mathématiciens de l'époque. Donc il s'agit d'une notion qui est la notion de divisibilité, Et il s'agit donc d'étendre la notion de divisibilité des nombres entiers donc aux entiers algébriques. Donc, alors ce texte est donc c'est un texte de 1876 que j'ai écrit tout à l'heure. Alors on a la chance que Dedekind l'ait écrit directement en français. Donc, c'est encore une époque bénie où les gens éduqués parlaient parfaitement plusieurs langues. Ils donc pouvaient là, voilà par exemple, donc rédiger à la demande, donc à l'invitation, à l'invitation de je ne sais qui. Donc une introduction didactique, une introduction très pédagogique à sa nouvelle théorie donc de la divisibilité des entiers algébriques en langue française. Ces recherches étaient parues auparavant donc en annexe aux leçons de théorie des nombres de Dirichlet. Voilà. Donc je pense que vous apprenez ces choses-là aussi en master. Donc j'avoue que moi j'ai beaucoup plus de difficultés probablement que vous parce que j'ai appris ça il y a très longtemps. Donc regardons donc le contexte dans lequel Dedekind travaille. Bon, je vais quand même lire avec vous les premiers paragraphes. Même j'aime lire un petit peu avec vous ce texte, je crois que c'est bien de lire et de rentrer dans le texte comme ça. En réponse, tout le monde a déjà le texte, tout est distribué. En réponse à l'invitation que l'on m'a fait l'honneur de m'adresser, je me propose, dans le présent mémoire, de développer les principes fondamentaux de la théorie générale, échappant à toute exception, des nombres entiers algébriques, principe que j'ai publié dans la seconde édition des leçons sur la théorie des nombres de Dirichlet. Mais à cause de l'étendue extraordinaire de ce champ de recherche mathématique, je me bornerai ici à poursuivre un but unique que je vais essayer de définir clairement par les remarques suivantes. La théorie de la divisibilité des nombres, qui sert de fondement à l'arithmologie, a déjà été établie par Euclide dans ce qu'elle a d'essentiel. Du moins, le théorème capital que tout nombre entier et composé peut toujours se mettre, et cela d'une seule manière, sous la forme d'un produit de nombres tous premiers, est une conséquence immédiate de ce théorème démontré par Euclide, qu'un produit de deux nombres ne peut être divisible par un nombre premier que si celui-ci est divisible au moins, donc que si celui-ci divise au moins l'un des facteurs. Donc vous voyez, donc il y a ici donc Dedekind commence donc par parler du théorème de la décomposition. En facteur premier. Et donc ce théorème est un théorème donc qui a été formulé pour la première fois dans les éléments d'Euclide, donc dans le livre 7 des éléments d'Euclide, donc 3e siècle avant Jésus-Christ. Et donc là, donc exactement comme pour le théorème de Pythagore, pour le théorème des angles d'un triangle, de la forme des angles d'un triangle, donc Euclide a fait l'analyse de ce théorème, et donc ici, Dedekind rend compte de cette analyse de ce théorème et donc montre que ce théorème donc, est une conséquence donc, du lemme suivant. Du lemme suivant, donc, un produit de deux nombres ne peut être divisible par un nombre premier que si celui-ci divise au moins l'un des facteurs. Si P divise AB, alors P divise A ou P divise B. 2000 ans plus tard, Gauss donna pour la première fois une extension à la notion de nombre entier. tandis que jusqu'à lui, on a désigné sous ce nombre que les nombres 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, point de suspension, que j'appellerai dans tout ce qui va suivre nombre entier rationnel. Gauss introduisit des nombres entiers complexes de la forme a plus b racine de moins 1, a et b désignant des nombres entiers rationnels quelconques. Et il démontra que les lois générales de la divisibilité de ces nombres sont identiques avec celles qui régissent le domaine des nombres entiers rationnels. Donc ce texte de Gauss, là, théorie des résidus biquadratiques, c'est un des mémoires que Gauss a rédigé en langue latine. J'estimais que quand quelque chose avait atteint un certain degré de perfection, ben, il fallait l'écrire dans une langue parfaite, donc la langue latine. Et ce mémoire-là, donc j'y ai accès parce qu'il était traduit en allemand, mais je pense qu'il n'a pas été traduit en anglais, il n'a pas été traduit en français, donc c'est un texte auquel on accède un peu difficilement. Et il est passionnant parce que, en fait, on y voit donc avec quelle difficulté Gauss construit la vision géométrique des nombres complexes. C'est-à-dire que, en français, il y a aussi donc un mémoire qui est en fait très très rare, mais qu'on aime à citer, un mémoire d'Argan sur les nombres complexes. Mais donc la vision géométrique des nombres complexes, c'est-à-dire vraiment de faire ceci, de dire que donc un point de coordonnées A et B est un point d'affixe A plus BI, eh bien c'est quelque chose qui apparaît pour la première fois au début du 19e siècle. C'est quelque chose qui n'était pas présent auparavant. Et cette construction, elle a lieu d'une manière très besogneuse. C'est quelque chose que j'aimerais bien étudier un jour de plus près pour comprendre pourquoi Gauss a un tel besoin de construire cela disons d'une manière aussi lente, là où nous aujourd'hui on pose, on dit simplement, on dit typiquement, on a introduit les nombres complexes par ce biais-là. Alors que Gauss, il fait les choses dans un autre sens, et c'est quelque chose qui représente un très gros effort pour lui et qui est salué par des gens comme Riemann, qui est salué par ses contemporains comme une prouesse. Là maintenant donc, la plus haute généralisation de la notion de nombre entier consiste dans ce qui suit. Un nombre θ est dit un nombre algébrique lorsqu'il satisfait à une équation, donc une équation de degré n, de degré fini n, et à coefficients entiers rationnels a1, a2, point de suspension an-1, an. Je vais vous dire l'équation algébrique, c'est θn plus a1, θn-1, plus a2, θn-2, plus point de suspension. Plus à n moins 1 θ plus à n égale 0. Il est dit un nombre entier, algébrique, ou plus brièvement un nombre entier, lorsqu'il satisfait à une équation de la forme ci-dessus dans laquelle les coefficients a1, a2, point de suspension, à n moins 1, à n, sont tous des nombres entiers rationnels. Voilà. De cette définition, il résulte immédiatement que les sommes, les différences et les produits de nombres entiers sont tous aussi des nombres entiers. Par suite, un nombre entier alpha sera divisible par un nombre entier bêta si l'on a alpha égal à bêta gamma, gamma étant également un nombre entier. D'accord ? Donc on peut définir donc les entiers algébriques. Et puis après, donc, on peut compenser par définir la divisibilité pareillement que pour les nombres entiers rationnels. Voilà, donc on dit que alpha divise bêta. Donc, il existe donc il existe gamma, nombre entier. Algébrique, tel que donc alpha gamma, donc bêta gamma, bêta divisé alpha, donc alpha est égal à bêta gamma. c'est comme alpha et 18 par bêta. Voilà, un nombre entier epsilon s'appelle une unité lorsque tout nombre entier quelconque sera divisé par epsilon. Alors maintenant, par analogie, on devrait entendre par nombre premier un nombre entier alpha qui ne serait pas une unité et qui n'aurait pour diviseur que les unités epsilon et les produits de la forme epsilon x. D'accord ? Donc on aurait envie donc donc d'étendre aussi la définition d'un nombre premier dans ce nouveau domaine des nombres entiers algébriques. Mais il est facile de reconnaître que dans le domaine de tous les nombres entiers que nous considérons ici, il n'existe pas de tel nombre premier. Puisque tout nombre entier qui n'est pas une unité peut toujours être mis sous la forme d'un produit de deux facteurs, ou plutôt d'un nombre quelconque de facteurs, qui sont tous des nombres entiers, mais non des unités. D'accord ? Donc, le problème, c'est que si on pose cette définition-là, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a aucun nombre entier parmi les entiers algébriques. Donc, on se dit, est-ce que c'est la fin d'une généralisation de la théorie de la divisibilité des nombres entiers rationnels aux nombres entiers algébriques ? Toutefois, alors non, ce n'est pas la fin, car toutefois, l'existence des nombres premiers et l'analogie avec les domaines des nombres entiers rationnels ou complexes commencent à se montrer de nouveau lorsque du domaine de tous les nombres entiers, on sépare une partie infiniment petite. Donc là, ce n'est pas les infiniment petits de Cauchy, hein, c'est vraiment juste discursivement, donc une partie vraiment très très petite, de la manière suivante. Donc on prend juste un nombre algébrique déterminé. Si θ est un nombre algébrique déterminé, voilà, donc alors, comment est-ce que je vais dire cette phrase ? Alors, si θ est un nombre algébrique déterminé parmi les équations à coefficients rationnels en nombre infini dont θ est racine, il y en a une et une seule. Donc à nouveau une équation qui a exactement la même forme que l'équation qui était en display en haut de la page, qui est le degré moins élevé que toutes les autres, et que l'on nomme à cause de cela irréductible. Donc ici, Dedekind est en train donc de chercher donc à faire au moins une théorie de la divisibilité. Donc au sujet donc d'un entier algébrique donné. Et donc il dit, première remarque, donc on peut donc lui associer un polynôme unique qui le définit, qui est donc le polynôme de degré minimal, dont θ est une racine, et donc dont le coefficient donc, du monôme de degré maximal est 1. Voilà, donc donc le polynôme θ puissance m etc plus a égale 0. Et puis maintenant donc il y associe un anneau. Il y associe donc tous les nombres donc de la forme donc phi de θ égale x0 plus x1 θ plus xn-1 θ plus xn-1. Donc voilà, vous êtes certainement convaincu qu'il s'agit d'un anneau, vous avez certainement vu ça. Non,
pardon, je disais non par rapport au texte, je suis désolé. Je disais en même temps.
Voilà. Donc tous les nombres de la forme phi de θ dont nous représentons voilà, dont nous représentons le complexe par oméga et ils jouiront de la propriété fondamentale que leur somme, leur différence, leur produit et leur quotient appartiendront tous aussi au même complexe oméga. Donc là, j'appellerai un tel complexe oméga à un corps fini de degré n. Donc là, voilà, effectivement, retenez l'histoire des maths. Donc là, je ne vais pas traduire. J'ai déjà prononcé le mot anneau. Lui, il utilise ici le mot corps. C'est, tout cela précède donc les définitions qui sont maintenant devenues canoniques des structures algébriques comme les anneaux. Les corps et tout le reste. Tous les nombres phi de θ appartenant au corps oméga se partagent maintenant, conformément à la définition ci-dessus, en deux grandes classes, savoir en nombres entiers, dont nous désignerons le complexe par O, et en nombres non entiers ou nombres fractionnaires. Le problème que nous nous proposons consiste à établir les lois générales de la divisibilité qui régissent un tel système O. Alors, il y a ici donc un défi que le mathématicien ne relève pas, qui est donc, d'écrire les lettres en cursive allemande de manière correcte. J'avoue que je ne les connais pas, je ne les pas toutes, mais le O, c'est très simple. Hein, c'est... Alors non, ça ressemble beaucoup à mon θ, hein, c'est très embêtant. Donc une lettre en cursive allemande, donc la page commence vraiment donc au bas de la feuille. On fait une boucle comme ça. Il est possible, si on est très attentif, donc à faire en sorte que toutes ces lettres ne ressemblent pas aux lettres de la, je sais plus qu'on appelle ça, de l'anglaise penchée, de cursive anglaise penchée, qui est celle que nous apprenons à l'école primaire. Donc soit oméga, donc. Les entiers, les nombres entiers algébriques. Donc, de ce, là je mettrai entre guillemets, hein, de ce corps. En fait, là, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de raconter donc, Oui, c'est moi qui suis nul en algèbre. Donc, oméga est quand même un corps. Donc,
ouais, c'est ça.
J'ai pas dit une bêtise.
Les deux degrés qui nous
pour approcher la deuxième. Ok, non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, donc je parlais d'anneau, c'était effectivement l'anneau, mais c'était effectivement par-dessus le champ un corps. J'enlève les guillemets. Mais effectivement, donc les anneaux, eux, donc, forment un anneau. Donc le système O est évidemment identique avec le système de tous les nombres entiers rationnels lorsqu'on a n égale à 1, ou avec celui des nombres entiers complexes, donc, qu'on appelle parfois les entiers de Gauss, lorsqu'on a n égale à 2 et θ égale à racine de moins 1. Certains phénomènes qui se présentent dans ces deux domaines O spéciaux se reproduisent encore dans tout domaine O de cette nature. Il faut observer avant tout que la décomposition illimitée dont il était question plus haut, et qui règne dans le domaine qui comprend tous les nombres algébriques entiers, ne se rencontre jamais dans le nombre O de l'espèce indiquée, comme on peut s'en assurer par la considération des normes. Donc vous vous souvenez, donc il disait tout à l'heure que quand on considère donc tous les entiers algébriques à la fois, eh bien donc en fait on pouvait écrire un entier algébrique quelconque comme produit d'un nombre quelconque d'autres entiers algébriques. Et donc là, c'est dans ici, donc il dit que dans ce cadre infiniment petit, entre guillemets, eh bien donc on ne peut plus faire cette décomposition illimitée, et ceci donc en considérant donc une norme naturellement associée donc à cet anneau. J'ai envie de sauter tout ce qui a trait à cette norme. Ça m'obligerait à réfléchir davantage, à vous faire réfléchir davantage, à faire des calculs. Ici, je vais essayer surtout de faire passer des idées. Alors, où est-ce que je reprends ma lecture ?
Voilà, donc je vais. Donc je vois que les questions de normes encore jusqu'au premier tiers de la page 281. Et donc je reprends, donc juste après, je prends la première phrase où il n'est plus question de normes. Donc, si maintenant un nombre du système O est dit décomposable lorsqu'il est le produit de deux nombres de ce système, dont aucun ne soit une unité, il suit évidemment de ce qui précède que tout nombre décomposable peut toujours être représenté comme le produit d'un nombre fini de facteurs indécomposables. Donc la notion de norme permet d'aboutir donc à ce résultat-là. Ce résultat correspond encore complètement à la loi qui a lieu dans la théorie des nombres entiers rationnels ou complexes. Savoir que tout nombre composé peut être représenté par le produit d'un nombre fini de facteurs premiers. Mais, en même temps, c'est ici le point où l'analogie, observée jusqu'ici, avec l'ancienne théorie, menace de se rompre pour toujours. Dans ses recherches sur le domaine des nombres qui appartiennent à la théorie de la division du cercle, donc vous avez certainement entendu parler le mot cyclotomique, la division du cercle, c'est faire des cyclotomies coupées de cercles, et qui correspondent par suite aux équations de la forme θm égale 1, Kummer a remarqué l'existence d'un phénomène par lequel les nombres de ce domaine se distinguent en général de ceux qu'on a considérés auparavant d'une manière si complète et si essentielle qu'il restait à peine un espoir quelconque de conserver les lois simples qui régissent l'ancienne théorie des nombres. En effet, tandis que dans le domaine des nombres entiers, tant rationnels que complexes, tout nombre composé ne peut se mettre que d'une seule manière sous la forme d'un produit de nombres premiers, on reconnaît que dans les domaines numériques considérés par Kummer, donc sont des anneaux donc, de nombres entiers algébriques associés à des racines de l'unité, associés à une racine de l'unité donnée, un nombre décomposable peut souvent se représenter de plusieurs manières entièrement différentes entre elles sous la forme d'un produit de nombres indécomposables. Ou, ce qui dans le fond revient au même, on reconnaît que les nombres indécomposables ne possèdent pas tous le caractère d'un nombre premier proprement dit. Donc,
on se rend compte ici donc, que quand on se cadre dans ce cadre restreint, eh bien, on n'a néanmoins pas une chose essentielle de la théorie des entiers rationnels, on n'a pas l'unicité de la décomposition en facteurs premiers. On a bien l'existence d'une décomposition en facteurs indécomposables, on ne va pas utiliser le terme premier ici parce qu'on va redéfinir le terme premier après, mais donc, on n'a pas l'unicité.
J'ai envie quand même de couper un peu court à ma lecture, même si je trouve, je n'arrive pas à m'arrêter de lire parce que je trouve que ce texte est quand même particulièrement bien écrit, il est particulièrement clair. Donc je vous invite aussi à le lire par vous-même. Non, je vais quand même lire encore un tout petit peu, désolé, je n'arrive pas à me retenir. Il est sur le point de dire quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de dire moi-même, et comme il le dira mieux que moi, je préfère laisser la parole à Louis-Étienne. Donc il était question donc, de nombres premiers, il disait donc juste, j'ai coupé la phrase avant sa fin, il avait dit donc que le problème, c'était que les nombres indécomposables ne possèdent pas tous le caractère d'un nombre premier proprement dit, lequel consiste en ce qu'un nombre premier ne peut diviser un produit de deux ou de plusieurs facteurs s'il divise au moins un de ces facteurs. Donc le problème, c'est que
Ici, donc, si on met un décomposable à la place de premier, d'accord, eh bien, donc, on n'a pas ce même. Donc, juste le fait qu'un nombre ne soit pas décomposable au terme, donc en termes de divisibilité comme défini ici, eh bien, ne nous donne pas accès à ce lemme dont on sait, depuis Euclide, que c'est lui qui est à la base, donc, de l'unicité de la décomposition facteur premier. Mais, plus le succès des recherches ultérieures sur de tels domaines numériques devait sembler désespéré, plus on doit de reconnaissance aux efforts persévérants de Kummel, qui ont été enfin récompensés par une découverte vraiment grande et féconde. Ce géomètre est parvenu à ramener toutes les irrégularités apparentes à des lois rigoureuses, et en considérant les nombres indécomposables, mais dépourvus du caractère de véritables nombres premiers, comme des produits de facteurs premiers idéaux qui n'apparaissent et ne manifestent leur effet que combinés ensemble et non pas isolés. Donc, que fait Kummel ? C'est qu'il dit, donc que si on a un nombre P qui est indécomposable mais ne vérifie pas la conclusion du lemme, eh bien donc il faut penser que, en fait, c'est qu'il est quand même décomposable, mais il n'est pas décomposable en nombres entiers algébriques, il est décomposable en quelque chose qui n'est pas vraiment un nombre, en quelque chose donc, voilà, qu'on rajoute donc au domaine des nombres, mais juste par une opération par une opération un peu étrange. Et Kummel donc va les appeler des nombres idéaux, au sens que ce ne sont pas des vrais nombres, ce sont des nombres qui existent dans l'idée mais qui n'existent pas dans la réalité. Et donc ce qu'il va dire, c'est que on peut retrouver, au moins donc pour la théorie donc des nombres cyclotomiques, on peut retrouver toutes les caractéristiques de la des nombres entiers rationnels en introduisant à chaque fois qu'il le faut des nombres idéaux en lesquels se décomposent les nombres P qui sont indécomposables mais qui ne vérifient pas la conclusion du lemme. Donc c'est hardi et donc là je vais sauter une bonne partie du texte, je vais continuer ma lecture donc dans le deuxième paragraphe qui commence page 283, qui commence dans la page en face. Parce que là on touche un point qui est très intéressant, parce que là il y a une analogie avec les nombres réels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc des nombres idéaux, je suis en train de dire qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Eh bien, comment est-ce qu'on peut faire des mathématiques avec quelque chose dont on ne sait pas vraiment ce que c'est ? Eh bien, c'est qu'en fait, Kummel, il dit, je vais dire que j'introduis des nombres idéaux, mais en fait, ce n'est pas des nombres idéaux que j'introduis. Ce que j'introduis vraiment, dit Kummel, c'est donc la divisibilité par les nombres. Donc je définis rigoureusement ce que ça veut dire être divisible par. Et alors quelle est l'analogie que j'ai envie de tisser ? C'est que comment est-ce que les Grecs traitaient racine de 2 ? Comment est-ce que les Grecs traitaient pi ? Comment est-ce qu'ils traitaient toutes ces grandeurs qui n'étaient pas des nombres ? Eh bien, ils avaient introduit quelque chose qu'ils appelaient le rapport le rapport de grandeur. Donc par exemple, racine de 2, donc c'est ce à quoi nous pensons quand nous pensons au rapport de la diagonale et du côté du carré. Mais donc, ce rapport chez les Grecs, il n'existe pas. C'est-à-dire que de fait, ce que Euclide définit dans le cinquième livre de l'élément d'Euclide, c'est uniquement l'égalité des rapports. Il va juste dire à chaque, il va donc donner une définition exacte, il ne va jamais utiliser autre chose que cette définition exacte de ce que ça veut dire que deux rapports sont égaux. Et ce que Lipschitz reproche à Debussy, c'est que en fait la définition de coupure est très proche de la définition de l'égalité de deux rapports tels que Euclide a défini. Je ne vais pas vous la donner ici, mais donc voilà, vous ouvrez les éléments d'Euclide, livre 5, définition 4, et vous la retrouvez. Elle est assez alambiquée. C'est une de ces définitions clairement qui était voilà, qu'à l'époque d'Euclide on a comprise, mais qu'après les successeurs d'Euclide on trouvait trop compliqué pour vraiment la comprendre, et voilà, elle a disparu du discours des mathématiciens parce qu'elle était vraiment très complexe. Mais voilà, donc elle est en même temps vraiment géniale, donc je vous invite quand même à la découvrir. Et donc ici, donc Coumer aussi donc fait quelque chose de génial. Il se rend compte qu'il faut penser, il faut donc avoir une intuition que donc un nombre indécomposable qui ne vérifie pas donc les conclusions du lemme. Donc il faut le penser comme un être décomposable en quelque chose. Donc qu'on va appeler donc des nombres idéaux premiers. Mais donc de fait, quand on fait des mathématiques, on ne va jamais utiliser la notion de nombre premier elle-même, on va juste définir ce que ça veut dire être divisible par ce nombre premier en question.
Donc je lis, ce qu'en dit Dedekind, comme je n'en sais pas plus que ce qu'en dit Dedekind, de toute manière, je ne vais pas vous donner l'explication. Coumer n'a pas défini les nombres idéaux eux-mêmes, mais seulement la divisibilité par ces nombres. Si un nombre alpha possède une certaine propriété A, consistant toujours en ce qu'alpha satisfait à une ou plusieurs congruences, il dit que alpha est divisible par un nombre idéal déterminé correspondant à la propriété A. D'accord. Moi je n'en sais pas plus parce que je suis vraiment, j'ai déjà montré avec mes problèmes de corps et d'anneau, ignare dans la théorie des nombres algébriques. Mais donc ici, donc, il est simplement fait état de la forme, de la définition de la définition de être divisible par un nombre alpha. Donc, être divisible par un nombre alpha est toujours défini par vérifier un certain nombre de congruences. Bien que cette introduction de nouveaux nombres soit tout à fait légitime, il est toutefois à craindre d'abord que, par le mode d'expression que l'on a choisi, dans lequel on parle de nombres idéaux déterminés de leurs produits, et aussi par l'analogie présumée avec la théorie des nombres rationnels, on ne soit entraîné à des conclusions précipitées, et par là à des démonstrations insuffisantes, et en effet cet écueil n'est pas toujours complètement évité. En d'autres mots, donc la phrase est un peu longue,
le problème c'est que l'image que Coumer a forgée est trop prégnante. Il y a donc des contemporains de Dedekind, de Coumer, qui ont commencé à penser donc à ces nombres idéaux comme si c'était des vrais nombres, et ont fait des démonstrations en utilisant des propriétés de ces nombres, des propriétés que ces nombres idéaux n'ont pas. Ils se sont laissés aller à des analogies qui n'étaient pas fondées sur la définition, sur la définition donc de être divisible par un nombre idéal.
D'autre part, une définition exacte et qui soit commune à tous les nombres idéaux qu'il s'agit d'introduire dans un domaine numérique déterminé O, et en même temps une définition générale de leur multiplication paraissent d'autant plus nécessaires que ces nombres idéaux n'existent nullement dans le domaine numérique considéré O. Hein. Donc, il dit, voilà, donc, il faut aussi, en même temps, donc, clairement définir ce que c'est que le produit de deux nombres idéaux. Et, en fait, ça veut dire, donc, étant donné, donc, des propriétés A, grand A, des propriétés grand B, donc, définir des propriétés, des propriétés grand C qui correspondent, donc, au produit, à quelque chose qui serait le produit des propriétés grand A et grand B. Et donc, comment est-ce qu'il est arrivé ? Pour satisfaire à ces exigences, il sera nécessaire et suffisant d'établir une fois pour toutes le caractère commun de toutes les propriétés grand A, grand B, grand C, point de suspension, qui toujours, et elles seules, servent à l'introduction de nombres idéaux déterminés, et ensuite d'indiquer généralement comment de deux de ces propriétés A, B, auxquelles correspondent deux nombres idéaux déterminés, on pourra déduire la propriété C qui doit correspondre au produit de ces deux nombres idéaux. Alors là, il y a une note de bas de page, et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que ici, donc, dans la note de bas de page, Dedekind va démontrer qu'il est parfaitement conscient de l'analogie avec l'introduction du nombre réel. Parce que dans cette note de bas de page, il fait un résumé très court de l'introduction des nombres réels par les coupures. Bon, il y a quelque chose d'assez divertissant, c'est que donc le mot coupure est un mot qui s'est généralisé donc dans l'usage de mathématiques, mais Dedekind lui-même, quand il écrit son texte, il les appelle des sections. Donc ça, c'est un peu étrange. Donc je ne sais pas exactement pourquoi Dedekind appelle ce que tous les autres appellent des coupures des sections. Mais voilà, donc. En tout cas, en allemand, le mot est Schnitt. Ce qui vraiment fait penser donc autant à section qu'à coupure. Alors, donc, que va faire Dedekind dans la suite ? Eh bien, donc, une double observation. Il va d'abord donc vraiment s'intéresser à la forme, donc à la forme de la définition de Kummer, être divisible par petit alpha, donc il va s'intéresser donc à ses congruences. Après, donc retourner donc à sa définition de la divisibilité pour les nombres algébriques qui existent vraiment, qui ne sont pas idéaux. Et donc il va, par cette analyse logique, se rendre compte qu'il y a donc deux propriétés. Il va se rendre compte qu'il y a deux propriétés qui sont essentielles dans ce propos. Alors quelles sont ces deux propriétés ? Alors d'abord, donc pour introduire les nombres réels, donc il introduit donc un objet qui sont les coupures, donc les partitions de Q en une partie gauche et une partie droite. Donc ici, donc ce qu'il propose de considérer, donc là ma lecture donc continue donc sur la page 285. À peu près aux deux tiers de la page. Si donc mu est un nombre déterminé de petit o, donc le système petit a de tous les nombres alpha égale mu oméga tel que mu divise alpha, vraiment au sens ici.
Voilà, donc, eh bien, donc, il va appeler cela un idéal principal. Mais attention, ici, il ne définit pas encore ce que c'est qu'un idéal. Il appelle ceci simplement un idéal principal. Et après, donc, il va se rendre compte que donc, cet ensemble a deux propriétés. Voilà, donc elles apparaissent.
Donc, sur la page 286,
donc, ce sont les propriétés 1 et 2. La propriété 1 se dit les sommes et les différences de deux nombres quelconques du système A sont toujours des nombres du système A. Voilà. Propriété 2. Tout produit d'un nombre du système A par un nombre du système A est un nombre du système A. Voilà, donc ils se rendent compte donc que cet idéal principal a deux propriétés qui sont donc 1, la stabilité par somme et différence, et 2, donc la stabilité, pas la stabilité, donc la conduite. Comment est-ce que cette propriété, la conservation par produit, ou toujours aussi stabilité? Alors maintenant, donc, il va reproduire exactement, le geste, créateur des nombres rationnels. Il va dire que, eh bien, donc, maintenant, réciproquement, il va donc appeler idéal donc tout ensemble qui vérifie ces deux propriétés. Donc j'ai commencé par dire donc réciproquement, donc si on a donc une partie petit a de petit o qui vérifie 1 et 2. Donc il n'existe pas nécessairement donc de nombre entier nu par qu'un O tel que petit a donc soit l'idéal principal associé à mu. Mais donc il va dire donc, maintenant donc je vais simplement étendre l'ensemble de mes nombres entiers algébriques en considérant tous les idéaux petit a. Et puis il y aura donc deux types d'idéaux petit a. Il y aura ceux qui sont bien donc, des idéaux principaux, donc associés à un nombre entier algébrique, et puis il y a les autres qui sont des idéaux non principaux. Et puis après, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore vérifier que toutes les propriétés, que donc tous les éléments de la théorie donc, soient préservés, c'est-à-dire qu'on puisse faire le produit de deux idéaux et qu'on puisse définir la divisibilité d'un idéal par un autre. Et puis après, donc, il reste donc deux choses à faire. Se rendre compte que tout idéal est bien issu d'une caractérisation par congruence, comme celle que Kummer a évoquée. Et puis d'autre côté, donc, a démontré un théorème d'existence et d'unicité de décomposition en facteurs premiers, c'est-à-dire un théorème qui dit que tout idéal est décomposable en un produit, d'idéaux premiers. Voilà. Donc, Je vais juste répéter la raison pour laquelle je voulais absolument vous parler de ce texte, c'est que donc c'est C'est ici, donc, c'est la qualité des kings, que donc tant pour les nombres réels que pour les idéaux, donc on assiste à ce geste créateur, donc d'objet qui, voilà, donc, auquel on donne l'existence, et donc dont on démontre qu'il vérifie un certain nombre de propriétés naturelles, et puis après, avec lesquelles on travaille, comme si c'était des objets qu'on avait toujours connus, qu'on considère comme parfaitement naturels. Donc d'un côté, les nombres réels, vous êtes... Nous sommes tous des témoins que, quand nous parlons de nombres réels, nous croyons vraiment comprendre parfaitement ce dont il s'agit, alors que, de fait, les coupures, c'est quand même compliqué. De la même manière, donc, dans la théorie des nombres algébriques, donc, les idéaux sont donc l'objet de recherche comme s'il s'agissait de nombres, et donc deviennent aussi naturels que donc, les nombres premiers, que, donc, aussi naturels que les nombres dans la. Donc, dans la théorie des nombres entiers. Et voilà, donc je vais m'arrêter là.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Si jamais vous voulez des prolongements des choses dont j'ai parlé ici, les indications de textes à lire ou de livres à lire, vous me croiserez certainement au labo de Labo et puis je vous inviterai de manière de prolonger ce.